peu et Jésus peut nous amplifier. Nous allons voir la place un peu de ces péchés. Et alors, autre chose qui était petite. Non, c'était la principale chose ici. Voilà. Donc on va lire à partir de chapitre 2, verset 28. Parce que là, c'est vraiment de la première épître de Jean. Jusqu'au chapitre 5, verset 5. Ça, c'est vraiment le corps de la lettre, c'est vraiment le message. Mais avant ça, on va lire un petit résumé. Les trois avant-derniers versets, c'est chaque fois commence par « nous savons, nous savons, nous savons ». Donc c'est ce que les lecteurs savent à la fin de la lettre. Ils ont fait le tout. Et ça résume pas tout. Et alors à chaque fois, je vous ai fait un résumé visuel du verset. Et donc, petit à petit, il y a quelque chose qui va se construire. Donc chapitre 5, verset 18 de la première épître de Jean. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Tiens, c'est bizarre, c'est un peu contradictoire avec ce qu'il y avait tout à l'heure. Comme quoi, quand nous avons des péchés, il faut demander pardon. Voilà. Donc nous allons un peu éclaircir ça. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà. Donc, voilà. Donc nous savons que celui qui est né de Dieu, c'est l'enfant de Dieu, ne pêche point, voilà, et que le malin ne le touche pas, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les flèches en rouge. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. J'avais déjà lu ça. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. L'enfant de Dieu est de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Et verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, nous savons que nous sommes de Dieu, l'enfant de Dieu est de Dieu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu afin qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, donc pour être en communion avec Dieu, qui est la vérité. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Donc ça, c'est les principaux acteurs qu'on va retrouver, mais on va en rajouter beaucoup plus autour de ça. Donc une fois cette conclusion, c'est toujours bien de lire la conclusion, la quatrième de couverture entre guillemets, voilà, on part au chapitre 2, verset 28. Et ça, c'est un peu l'introduction de tout le corps de texte, c'est ce que Jean va montrer. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloigné de lui. Donc il faut être en communion. L'enfant de Dieu doit être en communion avec Dieu et ainsi cette communion lui apporte de l'assurance pour le jour de l'avènement. Et Jean va faire deux chapitres pour expliquer ça. Comment est-ce que nous avons l'assurance grâce à la communion avec Dieu. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. L'enfant de Dieu pratique la justice parce que Dieu est juste et qu'il est né de Dieu. Ça, il va l'expliquer au début du chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Dieu a exprimé son amour envers les enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne connaît pas Dieu. Je vais rajouter une flèche ici. Et c'est bien aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et c'est ce que nous serons. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle magnifique perspective. C'est une phrase, un des versets qu'il faut retenir, je pense. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons, lui, le Fils, tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Donc, la communion avec lui sera parfaite. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Celui qui a l'espérance d'être un jour semblable à lui, bien, se purifie, il approfondit sa communion avec le Seigneur. Quiconque transgresse la loi et le péché est la transgression de. Transgresse la loi et le péché est la. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. J'ai appelé ça, ça va venir après, hein, enfant du diable. Là, il pêche, c'est la transgression de la loi. Or, vous savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Voilà, Jésus. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et celui qui ne pêche point ne l'a pas connu. Vous avez dit, oui, mais justement, avant, il a dit qu'il y a le péché. En fait, ce que Jean veut dire, je vais déjà un peu l'expliquer maintenant, c'est qu'il y a d'un côté quelque chose qui est négatif. Le diable, etc. Et de l'autre côté, Dieu. Quand tout sera accompli, quand on se ressemble à la vie, il n'y aura plus de péché. Rien. Tout ça, ça disparaît. Dans un endroit où nous n'aurons plus de contact avec. Et cette vie sans péché, nous n'arrivons pas encore à la vivre maintenant. Mais Paul a dit, par exemple, dans Romains chapitre 7, verset 20, « Quand je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui vit en moi. » Dans Galates chapitre 2, verset 20, il a dit « Christ, c'est Christ qui est en moi. » Je vais le lire, Galates chapitre 2, verset 20. Cache du Galate. Voilà. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Donc, l'esprit, avec l'esprit, nous sommes capables de vivre une vie sans péché, mais malheureusement, nous avons la chair en nous, qui fait qu'il y a toujours un petit morceau de ce côté-ci. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous pardonner afin que nous soyons à droite ou à gauche. Choisis les côtés. Voilà, et donc c'est par rapport à des versets comme il dit voilà, l'enfant de Dieu ne pêche pas, qui sont un peu. Qui nous condamnent et qui sont un peu contradictoires par rapport au. Trois premiers versets que je vous ai lus tout à l'heure, hein, pourquoi celui qui pêche devait demander pardon à Dieu et que Dieu le pardonnait. Voilà, en fait, c'est pas contradictoire, c'est juste deux idées différentes. Voilà, celui qui est né, il n'y a rien, il n'y a aucun péché en Dieu, il est parfait. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Voilà, comme nous péchons. l'Esprit Saint qui est en nous qui nous pousse à pécher. C'est notre chaîne. Et c'est ça que Jean veut dire quand il dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que celui qui est né de Dieu a reçu l'Esprit. Et c'est ça. C'est ça qui veut dire. Donc c'est pas contradictoire en soi.
Il ne pratique pas le péché, on pourrait dire.
Il y a certaines traductions qui utilisent ça chez Second, mais il y a une discussion de théologien derrière, je n'ai pas envie de plonger là-dedans. C'est une façon de voir les choses, mais c'est peut-être pas la seule, peut-être pas la bonne. Je laisse ça à ceux qui veulent approfondir. Petit enfant, verset 7. Que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste. Oui, alors, pour rappel, celui qui séduisait, c'était les antichrists. On avait vu la semaine passée. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. C'est une idée qu'il a déjà dit au verset 29. Donc Dieu est juste, et donc ceux qui sont de Dieu sont justes. Notre partie, si vous voulez, en vous, l'Esprit Saint, va vous pousser à accomplir des œuvres de justice. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche les commencements. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est en face. Les enfants du diable pêchent, les enfants de Dieu accomplissent sa justice. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu.
Parce qu'on est né de Dieu, on peut pécher. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
L'Esprit ne nous pousse pas à pécher. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui,
N'aime pas son Dieu. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas. Et là, on passe dans une autre partie. C'est une partie où on va explorer l'amour d'être.
Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voilà, donc nous devons nous aimer les uns les autres. C'est un commandement, souvenez-vous, hein, la semaine passée, un commandement nouveau, un commandement ancien. Donc un commandement que Jésus a donné déjà dans les évangiles, au chapitre 15 et encore au chapitre 17, aimez-vous les uns les autres. Les uns les autres, c'est réciproquement, mutuellement. C'est un seul mot. C'est pas les uns doivent aimer les autres et les autres ne doivent pas aimer les uns. C'est dans les deux sens. Et c'est un commandement, c'est le seul que Jésus nous a donné. Et il est... Je ne vous l'avais pas détaillé la semaine passée, mais voilà, il est détaillé ici. Et donc, Caïn, voilà, qui était enfant du diable, a haï son frère parce que son frère accomplissait des œuvres de justice. Son frère était juste. Hein, pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons,
haine du monde, qui était aussi la même chose que la haine de
Caïn vis-à-vis d'Abel. Il ne faut pas s'en douter. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort.
Celui qui a la haine pour ses frères demeure dans la mort. Et nous sommes passés de la mort à la vie. La vie qui
Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Voilà.
Donc Jésus a donné sa vie pour nous, nous devons donner notre vie par nous.
Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité.
Donc l'amour doit vraiment se faire en parole et en vérité. On approfondira ça après.
Donc en action et en vérité. Il y a un jeu chez les enfants, acte ou vérité. Là, c'est pas acte ou vérité, c'est action et vérité. Au verset 19, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, par là nous aurons l'assurance,
parce que nous savons que nous agissons par la vérité,
en vérité. Donc par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Pourquoi notre cœur nous condamne parfois?
Parce que nous péchons parfois et nous demandons.
Cela ne doit pas être. Nous voyons de l'assurance. Et Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
Oui, c'est par rapport à ce que...
Et c'est ici son commandement, c'est que nous croyons au nom du Fils, de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon nos commandements qu'il nous donne.
On a encore la foi dans le Fils, et nous devons nous aimer les uns les autres.
Donc le commandement de Jésus, il est double, aimez-vous les uns les autres, et croyons-moi. Verset 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qui nous a donné.
Voilà, l'Esprit apparaît. Demeurer, c'est la communion. Demeurons mutuellement en communion et nous savons grâce à l'Esprit que Dieu nous a donné.
Chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Dieu nous a envoyé l'Esprit par son Fils.
Reconnaissez ceci à l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. C'est ce qui est marqué. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde.
Donc, en face de l'Esprit, vous pouvez quelque part l'Esprit de l'Antéchrist. Qui est opposé au Fils.
Bon. Étymologie. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Donc, on peut vaincre les esprits de l'Antéchrist, parce que Dieu est plus grand que Dieu est en vous.
c'est pas égal. C'est beaucoup plus fort.
Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute.
Ils sont du monde, le monde les écoute et eux écoutent.
Ils s'appartiennent mutuellement. Donc je disais, nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de
l'erreur. Donc il y a apparu, c'est l'erreur. Il y a l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Et nous pouvons reconnaître l'esprit de la vérité et qui est dans l'esprit de l'erreur. Et les enfants du diable n'écoutent pas Dieu.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Il le dit 4 fois, hein, la lettre, aimons-nous les uns les autres. Voilà. Il insiste vraiment bien. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu.
Ça va même plus loin. Au verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu.
Celui qui n'aime n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. C'est carrément un nom de Dieu.
L'amour de Dieu, au verset 9, a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.
Donc c'est sa première expression de l'amour envers nous. Peut-être pas sa première, parce que vous avez déjà créé, c'était déjà pas mal. Mais en tout cas, vraiment, quelque chose qui se voit, c'est que Dieu a envoyé son Fils par nous. Que nous soyons en communion,
que la communion avec Dieu soit restaurée. Que nous ayons la vie. Donc afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime
propitiatoire pour nos péchés. Dieu nous a aimés. Donc ce n'est pas parce que nous on l'a aimé, c'est parce que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils pour
expier le péché et donc effacer
notre
dette et que Dieu puisse nous pardonner. On va y arriver. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
Voilà. Parce que Dieu est amour, nous devons également nous aimer. Il explique d'où vient ce commandement, aimer les uns les autres. Comme tout à l'heure, l'accomplissement des œuvres de justice, parce que Dieu est juste, nous nous aimons les uns des autres, parce que Dieu est amour.
Personne, verset 12, n'a jamais vu Dieu.
C'est pas c'est l'endroit où Jean lui dit, il l'écrit ailleurs aussi.
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait pour nous.
Donc cet amour est une expression de la communion avec Dieu.
Dieu demeure en nous. Il a fait sa maison. Pensez au chant des enfants tout à l'heure. Avec les images, il vient dans notre maison. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc,
une autre façon de voir la communion, c'est parce que nous avons l'esprit.
De la constater, une façon de l'observer. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde.
Il a envoyé le Fils comme sauveur du monde.
Il répète la même idée en la déclinant un peu. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu.
Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Donc, il explique tout à l'heure, il avait dit que celui qui confesse Jésus-Christ, il y avait l'esprit, et que celui qui ne confesse pas, c'était l'esprit, les esprits de l'Antéchrist. Et il explique pourquoi, ici. C'est parce qu'il faut être en communion avec Dieu pour pouvoir dire cela. C'est pas la réalité parfois un petit peu plus subtile. Mais en tout cas, devant Dieu, au tribunal, il y en a qui confessent Jésus, qui ne confessent pas. Ce sera clair. C'est parfois c'est un peu plus brouillard ici-bas. C'est normal. Donc voilà, et nous avons, donc je relis le verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru, Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous avons, grâce à l'amour, de l'assurance. L'assurance, c'était aussi tout à l'heure grâce à la communion. Et donc ce verset 17 est l'apogée de tout son développement. Il voulait nous montrer qu'on avait de l'assurance. Il l'a montré parce que nous sommes en communion avec Dieu. Il l'a montré aussi parce que nous avons... ça s'applique dans notre vie parce que nous aimons entre nous. Parce que nous avons la foi. Parce que nous avons l'amour pour les frères. Nous avons aussi de l'assurance. Et c'est ça la raison... ces deux chapitres, c'est nous expliquer l'assurance que nous avons. Une belle assurance. L'assurance, c'est pas si je fais un crash, j'ai mon aluminium, et puis voilà. Non, l'assurance, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment se reposer. C'est pas quelque chose qui vient quand on aura des problèmes. C'est quelque chose sur lequel on peut bâtir notre vie. C'est le roc. C'est plus que... j'ai mis ici à côté l'espérance, parce que mais donc l'assurance, c'est face au doute. Je vous ai parlé de doute il y a un mois presque maintenant. Il y a des gens qui entretiennent le doute et cherchent les erreurs. Et la science, c'est la recherche de l'erreur. Nous sommes dans la recherche de la vérité et nous avons besoin de l'assurance. Donc c'est vraiment le verset 17 qui conclut toutes ces recherches, cette explication par rapport à l'assurance que Jean avait annoncé au verset 28 du chapitre 2. Il avait déjà fait une première étape à la fin du chapitre 3 où il parle déjà de l'assurance, mais ici c'est le chapitre 4 verset 17, c'est l'apothéose. Donc tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et en face de ça, qu'est-ce qu'il y a? La crainte n'est pas dans l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Oui. Celui qui craint, quelque part, c'est qu'il soupçonne qu'il va y avoir quelque chose. Et déjà, rien que de craindre, c'est pénible en soi, donc en soi, déjà rien que la crainte, c'est un châtiment. Donc c'est un peu ironique ce qui est dit là. La crainte suppose un châtiment. Déjà rien que la crainte, en soi, est un châtiment. On s'impose. L'amour parfait bannit la crainte.
C'est ironique, mais on l'a déjà répété quelques fois. C'est verset. Parfait. Pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier, si quelqu'un dit. Oui. Donc, nous l'aimons pas parce que c'est automatique, non, c'est parce qu'il nous a aimé le premier que nous sommes capables de l'aimer. C'est parce qu'il nous a aimé que nous sommes capables d'aimer également. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu et qu'il haïsse son frère », c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas?
Voilà. On ne peut pas aimer Dieu, donc on a de la haine pour Dieu si on a de la haine pour les frères. Donc ça, c'est pas, ça ne garantit pas l'enfant de Dieu.
Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
L'amour va autant vers Dieu.
Chapitre 5. Voilà, on a un schéma presque complet. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Que Jésus est le Christ est né de Dieu, oui. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui.
Et la foi. Quiconque croit que Jésus est de Dieu est né de Dieu. Et celui qui aime. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donc quiconque aime les frères aime donc celui qui l'a engendré aime Dieu. Quiconque aime Dieu aime aussi les frères.
En fait, c'est Dieu qui engendre l'amour pour les frères dans celui qui s'est converti.
Oui, c'est ça.
Hors de la conversion, on ne s'est pas aimé.
Verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ces commandements, pour rappel, parce que c'est pour la troisième ou quatrième fois que Jean fait allusion aux commandements, donc c'est aimez-vous les uns les autres et croyez en Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc c'est. Puisque le commandement c'est. Aimer ses frères, ben, l'amour de Dieu, c'est comme ça. Voilà, c'est kiff kiff bourrico. Aimer les frères et aimer Dieu, ça va de pair. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Notre foi triomphe du monde.
Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est à droite est supérieur à ce qui est à gauche. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.
Voilà la dernière partie. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, il triomphe.
Donc ça faisait beaucoup de flèches. Mais voilà toutes les idées qui sont présente dans ces deux chapitres. Et qu'avons-nous à en retenir?
On y retrouve la Trinité. Dieu, Fils, Esprit. Et en face de cela, il y a l'esprit d'Antichrist, le diable, hein, il y a le monde, de manière générale.
On retrouve
trois affirmations, donc Dieu est le véritable, Dieu est la vie éternelle, Dieu est amour, c'est ce qui est texto dans différents versets qu'on vient de lire. Voilà, donc ces trois synonymes de Dieu, trois autres mondes, on pourrait dire. Et on a chanté tout à l'heure, hein, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, on y est presque. Hein. Et en face, ce qui est dans le monde, quoi. C'est la haine, la mort, l'erreur.
Alors,
ici, ça aussi, ça vous dit quelque chose, je pense. L'amour, la foi et l'espérance. Hein, à la fin, 1 Corinthiens 13. Hein,
Je ne sais pas si. Donc, à la fin du chapitre 13 de Corinthiens, verset. Maintenant, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est pour ça que je l'ai mis au-dessus.
Ces trois choses demeurent. proches de meurtre, donc pourquoi l'espérance un jour aura pris fin, nous aurons ce que nous avons espéré. La foi sera intégrée en fait, parce que nous n'avons plus besoin de croire en lui, mais il sera là. C'est déjà une évidence pour nous, mais ce sera encore plus. Mais l'amour, ben, se dit ça vraiment parce que l'amour, c'est Dieu. Et en face de ça, ben, une crainte, j'ai rajouté ici ben, un désespoir pour compléter les réponses. Et donc souvent, amour, foi et espérance sont mis en parallèle. Par exemple, on peut aller voir dans la première lettre aux Thessaloniciens, parce que c'est un peu, parfois un peu vague comme ça. Première lettre aux Thessaloniciens, juste au début, chapitre 1, verset 3. Enfin, on va déjà commencer, donc c'est page 900. Je commence au verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance dans le Seigneur. Donc ici, Paul détaille un petit peu plus. La foi s'accomplit dans les œuvres, et c'est ce qu'explique Jacques à son chapitre 2. La foi sans les œuvres est morte. Et donc il y a l'œuvre de la foi. Donc, la foi, elle se met en action. Il y a un travail de votre charité, un travail de l'amour. L'amour se met aussi en action. Et nous voyons aussi qu'il y a une fermeté pour l'espérance. C'est pas une espérance un peu floue. Moi, j'espère que je vais gagner au loto. Non, non. C'est une espérance ferme. C'est une certitude. Donc ici, on pourrait très bien mettre aussi des espérances. Combien dans le monde ont l'incertitude du lendemain, la crainte, on met les sous de côté, on sait jamais, etc. Ah, notre pension, combien on aura quand on sera à notre pension, etc. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prévoir, hein. Non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est ce raisonnement est vraiment un raisonnement du monde. Alors, donc le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est d'aimer les frères. L'enfant de Dieu doit aimer ses frères et croire. C'est vraiment, j'insiste dessus. Et bien en face de ça, ben, l'enfant du diable est dans la crainte et la solitude. Voilà, chacun fait ses choix, c'est animé. Et alors, des choses qui sont assez centrales au final dans toute cette lettre, parce que ça a commencé dès le verset 3, 3 et 4, hein, dans le chapitre de Jean, on y retourne, du chapitre 1. Hein. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est vraiment la communion qui était l'objet de toute cette lettre, et ça apparaît souvent, le verbe demeurer, c'est équivalent de communion qui est le nom voilà. Et en face de ça ben, on a le monde qui est sous la puissance du malin. C'est pas une communion hein. C'est juste une domination et nous avons notre espérance d'être semblable à vous. En face de ça il y a que la crainte du châtiment.
Voilà. Donc, nous allons creuser ces deux choses, donc la communion, demeurer, connaître. Je vous ai déjà lu le verset 3, on va lire la suite. Hein. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite, donc c'était vraiment important pour Jean de le lire. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc c'était une des premières raisons pour lesquelles il écrit. Et c'est vraiment insister sur ça, c'est d'être en communion avec Dieu, c'est d'être dans la lumière, c'est de le connaître. Un tout petit peu plus loin, chapitre 2, donc sur la même page, versets 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Donc ici, ce qui est important, ben, c'est celui qui est en communion garde les commandements et qu'il a vraiment, il garde la parole. Chapitre 4, verset 13, on l'a lu tout à l'heure. Je le relis. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc, on est en communion avec le Seigneur, mais grâce à l'Esprit Saint qui nous a donné. On fait un saut dans la deuxième épître. Et ça, c'est par rapport à... par rapport à la perspective. Donc je commence au verset 1. L'ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Donc cette communion, c'est jamais en fait qu'il y a un avant-goût, c'est l'apéro. Parce qu'après il y a le hors d'œuvre avec le Seigneur. Généralement, on aime beaucoup l'apéro, mais on aime aussi tout ce qui suit, le fromage, le dessert, etc. Ne croyez pas que l'apéro est le meilleur des plats. Même si vous aimez bien les chips et tout ça.
Vaut mieux le plat de méditation.
Et tout ce qui est derrière est très bon aussi. Et là, ici, c'est encore meilleur. La communion avec Dieu, pour l'instant, c'est déjà formidable. Mais ce qui nous attend, c'est être semblable à lui. Et qui n'a pas besoin d'être transformé par le Seigneur. Et enfin, chapitre 3, verset 24, on l'a lu également tout à l'heure, mais on le relit, je pense que c'est important. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc nous gardons les commandements donc c'est aimer son frère, c'est croire en Dieu. Et la preuve, c'est que cette communion s'écrit dans les Actes, chapitre 2, verset 42, c'était la première église. Et c'était vachement bien parti au début, hein, avant qu'il y ait Ananias et Séphira et tout ça, chapitre 5. Au chapitre 2, c'était rose. Voilà, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Cette communion avec le Seigneur se traduisait après en communion fraternelle. Puisque c'est garder les commandements, c'est aimer ses frères. Et je poursuis là-dessus. Cet amour mutuel, j'ai mis mutuel, hein, les uns les autres. Donc c'est un commandement, c'est pas juste un ordre, hein. c'est parce que vous avez l'amour de Dieu que vous savez aimer, c'est pas juste parce que vous avez un ordre que vous savez obéir, hein. Nous savons bien que par la chair nous n'y arrivons pas. Alors, toujours dans ce qu'on a lu, 1 Jean 3,16, donc c'est pas Jean 3,16, mais c'est 1 Jean 3,16, des choses sur lesquelles je veux vraiment insister. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Donc, je pense que la première chose qu'on peut, enfin, pour exprimer l'amour envers nos frères et nos sœurs, hein, je ne sais pas si ça existe, donc c'est la vie en fait. Et la vie, c'est du temps. On a 80, 70, ou moins ou plus. Comme c'est dit à un endroit, pour les plus âgés, voilà, années qui nous sont confiées et dans quelle mesure nous savons mettre ça pour les autres. Donc donner sa vie, bah, c'est déjà donner du temps, c'est pas juste aller sur la croix et pratiquement bah, le temps court après. Et je pense que ça, c'est peut-être plus le cas encore en notre époque, mais je pense que ça a toujours été le cas. Et puis ce verset 18, hein, petits enfants, n'aimons pas avec en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Vraiment, ça se traduit d'une certaine manière par des actes, et des actes qui sont vrais, qui sont pas qui sont pas faux. Et alors par rapport à ce qui remarque qui a été dite la semaine passée, je vous lis Galates chapitre 6 verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc c'est surtout les frères, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les autres. Il ne faut pas non plus s'occuper auprès des autres. Voilà, il y a la communion fraternelle. Vous savez bien qu'avec les gens du monde, vous ne pouvez pas avoir de communion tant qu'ils ne sont pas convertis. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas leur lancer des pêches. Alors face à ça, je voulais parler d'un livre que j'ai lu. Peut-être 20 ans maintenant, de Gary Chapman, mais qui, lors de l'expo biblique, j'ai vu qu'il était aussi dans l'étalage. Ça s'appelle Les langages de l'amour. Et alors, l'auteur, il est en fait conseiller conjugal, et il expliquait il y a différentes. Chacun a son langage, sa façon de se sentir aimé. En fait, c'est pas. Le problème, c'est pas parfois d'aimer, pas problème, c'est de le faire ressentir à l'autre. On s'y prend mal parfois, voilà. Et donc il expliquait que chacun a son langage, bon, c'est de la théorie, hein. Y en a qui vont plutôt préférer recevoir des paroles valorisantes, compliments, etc. Alors il déclinait ça d'abord dans son livre, Les langages de l'amour, c'est surtout dans le cadre conjugal, et puis après il a écrit d'autres livres par rapport aux adolescents, par rapport aux enfants, etc. Donc il y a des choses, on peut même se regarder par rapport à soi, des choses qui nous touchent, des choses qui nous peuvent, voilà, les paroles valorisantes, pour moi, pas énormément, des choses, ça ne me remue pas intérieurement, voilà, des moments de qualité, mais ça ne me fait pas. Donc il y en a, ils ont faire quelque chose ensemble, voilà, pour en tout cas passer un moment de qualité à partager. Voilà, il y en a qui sont. Ça marche pas du tout chez moi, les cadeaux. Je comprends pas. Mais il a fallu que, bah, par rapport à Véronique, de temps en temps, je lui dise, je vais lui faire un cadeau. Parce que. Voilà, c'est un langage, c'est un barbare, quoi. Je comprends pas du tout, mais on a d'autres qui sont sensibles à ça, et il y en a qui sont très très sensibles à ça. En tout cas, il n'y a pas besoin d'être un cadeau qui coûte cher, mais c'est peut-être un cadeau, c'est rien du tout, mais c'est un cadeau. Et parfois, je suis complètement étonné de la joie que ça peut procurer à quelqu'un, un petit cadeau qui coûte rien du tout. Voilà. Alors, moi, ça marche bien, ça, chez moi. C'est le front de moi, bah, c'est j'aime bien faire et c'est quand je fais que j'exprime mon amour, quoi, voilà. Donc, je dis que je vais faire la vaisselle, le passage, et c'est pas comme ça qu'elle va le ressentir le plus facile, le mieux, en fait, c'est parce que c'est pas son langage, le problème de langage, je parle en anglais, écouter ce qu'il me raconte. Et puis le toucher physique, il y en a qu'un. Enfin, ils vous disent bonjour, ils mettent la main sur l'épaule, bonjour Annette, comme ça. Ils sont très, très, très physiques, comme ça. Les muets, s'il ne me fait pas un gâté par jour qui dure 10 secondes, c'est qu'il est malade, quoi. Hein,
normal. Il faut qu'il tienne. Pour s'endormir, il faut qu'il soit entre nous deux. Il est terrible de ce point de vue-là.
Voilà. Mais, donc, ça, c'est juste... Oui, des formes du mal à exprimer. Mais au-delà de toute cette théorie, ça, ça peut aider, bien sûr, à comprendre, mais ça peut aussi nous enfermer. Voilà. Ce qui est important, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en face, j'aurais dû le mettre à droite aussi. Déjà, aimer, c'est prendre du temps. Et c'est en action et en vérité. C'est bien beau les beaux discours. Par exemple, des moments de qualité. Véronique, elle est capable de passer parfois quelques dizaines de minutes au téléphone avec ses copines, mais rien ne vaut qu'à un moment donné, il faut qu'elle se voie. Il y a un autre livre, mais ça c'est plus spécifique à la relation conjugale que. Là, je sais pas, j'ai lu ça hier, enfin, j'ai lu ça il y a un an. Savoir aimer, c'était inspiré du film Fireproof. Et là aussi, ça montre bien que l'amour vient de Dieu, mais parfois on a bien du mal à l'exprimer vis-à-vis de son conjoint et à mettre ça en application. Là, j'en ai encore quelques exemplaires chez moi, si ça intéresse le groupe, à un moment donné. Voilà, mais ne pas oublier qu'au-delà de tout cela, l'important, c'est ça. C'est l'amour vers Dieu. Je ne pourrais jamais aimer quelqu'un si vous ne laissez pas aimer partir. Et donc, pour ça, ben, il faut revenir à ceci. Quoi. Et vous devez être à droite. Et bien sûr, de temps en temps, il y a ceci qui nous entrave, qui nous salit. Mais nous avons Dieu et Jésus voilà, qui nous pardonne. Et nous pouvons vraiment lui demander pardon pour nos péchés. Et être dans la vérité, la vie.
Voilà pour ces deux chapitres et demi. Très dense, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais le plus important, c'est d'aimer et pas d'aimer de manière intangible, il faut aimer de manière pratique. Voilà, donc c'est très vite, question.
Merci.